Conférence spirituelle par le Père Philippe, à Rimont, le 27 février 1988.
Nous allons continuer cette lecture de l'Apocalypse. Je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas suivi précédemment. Vous savez rien, on entre dans l'Apocalypse, vous savez. Il faut bien un jour y entrer. C'est très important, puisque l'Apocalypse fait partie des écrits johanniques. Et vous comprenez qu'ici, l'Apocalypse, la première épître de Saint Jean et l'évangile de Saint Jean sont les livres auxquels on revient tout le temps, qu'on creuse, qu'on essaie de creuser, qu'on essaie de comprendre et surtout qu'on essaie de vivre. Alors, on en était au mystère des trompettes. Tout à fait apocalyptique. Alors comprenez bien, il y a d'abord les sceaux dans la grande vision du ciel. Il y a le livre scellé, 7 sceaux. Et personne ne peut enlever ces sceaux, ce qui fait que Jean, dans son extase, pleure beaucoup. Parce que personne ne peut enlever les sceaux. Et l'agneau, comme immolé, lui peut enlever les sceaux. Alors, le mystère des sceaux, c'est le mystère des déterminations de Dieu dans la grande vision de la prédestination. La grande théologie de la prédestination, qui est une théologie difficile, hein, qui est très belle. C'est le regard de Dieu de toute éternité sur l'homme. C'est ça la prédestination. C'est le regard de Dieu à travers Jésus crucifié qui nous atteint chacun en particulier. Et on est prédestiné à être enfant de Dieu. On est prédestiné à être fils bien-aimé du Père. C'est pour ça qu'on est prédestiné à travers le mystère de la croix et à travers même le mystère de la blessure du cœur de Jésus. Et c'est bien ce qui nous est montré, puisque seul l'agneau, comme immolé, peut enlever les sceaux. Après les sceaux, il y a les trompettes. Évidemment, dès qu'on parle de l'Apocalypse, on pense aux trompettes, hein, trompettes du jugement dernier. Alors, les trompettes, c'est, je crois, lors de l'exécution. Alors, ce que je vous disais hier, je le reprends en 2 minutes pour que tout le monde puisse comprendre, c'est que le mystère des sceaux, je le mettrai verticalement. Il y en a 7. Vous savez, les 7 sceaux. Et ça veut dire que Dieu nous regarde toujours à travers ces 7 sceaux. Alors que le mystère des trompettes, c'est horizontal. Et je crois qu'on peut dire que le mystère des trompettes correspond à tout le développement de l'Église. On aurait donc, faisons attention, j'ai réfléchi hier, après, on a toujours des nouvelles intuitions, après, avec un frère du reste, on a réfléchi ça ensemble. Vous voyez comme quoi c'est important. Une coopération pour découvrir ce que c'est que les trompettes. Ce qui n'est pas comme du reste. C'est pour ça que je crois que c'est très important de coopérer dans ce domaine-là. Ce seraient les 7 moments de l'Église. Il y a bien sept moments dans l'Église. Ça peut se comprendre différemment. Et moi, j'avais beaucoup pensé par rapport aux spiritualités. On peut le penser par rapport aux brisures. Parce que dans une théologie mystique, on doit regarder les sept grandes spiritualités de l'Église. Il y en a sept. Ils se sont développés progressivement. Alors, la première trompette, le premier sonnat de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas voir là le point de vue des martyrs, les premiers martyrs? Puis vous avez le deuxième sceau. Quelque chose comme une grande montagne brûlée par le feu jetée dans la mer. C'est une chute terrible. Et le tiers de la mer devient du sang. Alors, c'est assez délicat, mais c'est peut-être l'islam. C'est la grande montagne précipitée par le feu. Sûrement que l'islam joue un rôle très particulier. On n'a pas terminé avec l'islam. On ne fait que commencer. Troisième sceau, il tomba du ciel une grande étoile. C'est la première étoile. Les étoiles, c'est les théologiens. C'est le chapitre 8. Une grande étoile qui brûlait comme une torche. Et il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et le nom d'étoile se dit absinthe. Alors je me demande, c'est pas ce très grand tournant au XIVe siècle de Occam. Occam joue un rôle très très important comme théologien. C'est une destruction de la métaphysique logique. Alors évidemment, chaque fois qu'on va parler d'Occam, vous parlez absinthe. Il faudrait creuser un peu pour voir si absinthe et Occam ça va ensemble. Occam, vous voyez, c'est long, c'est l'Angleterre. Hein. Là, vous allez peut-être prendre une autre type d'alcool. Hein, c'est ça. Puis, alors après, quatrième, ce serait le point de vue de la Renaissance. Le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles. Tout est faussé par un point de vue déjà un modernisme. Le premier modernisme, c'est la Renaissance. Ensuite, cinquième, je maintiens Luther, parce que la chute de Luther, c'est la chute de la seconde étoile. Il y a deux étoiles, deux chutes d'étoiles. Donc, deux chutes de théologiens, de grands théologiens. Il y a des théologiens qui sont restés des étoiles. Thomas d'Aquin reste une étoile. Vous voyez bien, il reste une étoile. Saint Bonaventure reste une étoile. Tandis qu'il y a des étoiles qui tombent. Et quand une étoile tombe, c'est assez terrible. Alors on aurait Occam et Luther. Ils se tiennent hein, tous les deux. Il ne faut pas oublier. C'est la deuxième étoile de la chute. Alors, sixième trompette, ce serait les idéologies athées. Si c'est vrai, vous voyez, où on se situe. Hein, on se situe entre la sixième et la septième trompette. Ça peut durer un certain temps. Comme ça peut aller très vite. Ça, je ne sais pas, moi. Vous non plus ne le savez pas, donc. On peut toujours dire quelque chose de juste. On verra plus tard. Mais je crois bien que la sixième trompette représente bien des idéologies athées. Quelque chose d'assez assez affolant. Au moins, c'est une hypothèse, hein. Et je crois que c'est les grands tournants dans l'Église, vous voyez. Les premières hérésies par rapport au Christ avec les martyrs. Puis l'islam représente quelque chose de très très puissant et assez terrible. Puisqu'on le sait, en France, ça va devenir bientôt quelque chose d'assez difficile, il ne faut pas l'oublier. La seconde religion qui est en France, c'est l'islam. Et le gouvernement aide, puisqu'il paie des centres de recherche islamique. Le gouvernement français avait déjà fait quelque chose d'analogue au début du siècle. Puisqu'on sait très bien que si les Kabyles ont été pris par le point de vue musulman, c'est à cause du gouvernement français qui avait interdit aux missionnaires de convertir les Kabyles. Et tous les Kabyles seraient devenus catholiques. Et l'Algérie aurait été un pays catholique par les Kabyles. Et ça, c'est une chose terrible du début du siècle. Vous voyez, ces complicités qui sont très curieuses d'islam. Faisons toujours attention, hein, parmi les musulmans, il y en a de très grands et de très beaux. Mais je parle de l'islam comme une fausse révélation. Parce que c'est une fausse révélation. Puisqu'on réduit Jésus à être un prophète, et qu'on considère que le plus grand prophète, c'est Mahomet, identifié au paraclet. J'ai moi-même entendu ça, mais directement, ça m'a beaucoup frappé, c'était tout près de Dakar. Prêcher à Kermoussa, et je savais qu'il y avait un petit port de pêche, un grand port de pêche. Et on m'avait dit, vous savez, à 6h du matin, ou 5h du matin, je ne sais pas quelle heure je suis parti, il n'y aura que des Africains. Il n'y aura pas un seul blanc. Je voulais avoir le spectacle, vous voyez, primitif, tout à fait primitif, parce qu'on aurait cru qu'on était au Moyen-Âge. On les barque, on les roulait à la mer par des troncs pour aller, et on les ramenait comme ça aussi. C'était très beau du reste. C'est un spectacle étonnant. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de pêcheurs qui étaient là. Alors il y avait les hommes qui revenaient de la pêche, les femmes étaient toutes mobilisées pour dépecer les poissons, le faire étendre au soleil pour qu'il soit bien bien avec toutes les mouches. Mais ça c'est rien, c'était... Et alors le spectacle encore beaucoup plus beau, tous les oiseaux rapaces qui sont nombreux là-bas, qui étaient là. D'habitude on ne peut pas les approcher. Là, on leur tapait sur la tête. Et j'ai compris ce que c'était que le concupiscible. Parce qu'ils prenaient ça, ils plongeaient là-dedans. Et le concupiscible tellement fort, tellement puissant, qu'on peut leur taper sur la tête. C'est comme un bon petit chat qui continue. Alors que d'habitude, on ne les approche pas. Mais là, c'était très très bien. Oui, tout était propre au bout de 3 minutes. Il ne restait plus rien du tout. C'était merveilleux. Et avec les bouches, ça, il n'y avait pas suffisamment de bêtes pour avaler les mouches et laisser le poisson tranquille. Et alors, un petit gosse de 12 ans, merveilleux, tout de suite s'est précipité sur moi. Il m'a dit, je te conduis. Alors il s'est servi de guide comme ça. Il n'avait pas besoin de guide, rien de... il n'avait qu'à regarder. Vous savez, il était très content de servir de guide. Alors quand je suis parti, il m'a dit, pourquoi tu n'es pas musulman ? Pourquoi tu n'es pas musulman ? Il dit, parce que je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais si tu es chrétien, tu devrais être musulman. Alors je dis non. Parce qu'au-dessus du Christ, il n'y a personne, il est Dieu. Oh non ! Il y a Mahomet qui est venu après. Et le Christ a annoncé qu'il enverrait le grand prophète. Vous voyez, le paraclet. C'était un dialogue assez étonnant. Petit gosse comme ça, qui avait appris son Coran et qui servait de témoin avec une espèce de force. Qui n'hésitait pas hein, de demander à un moine pourquoi il n'était pas musulman, tout étouffé possible. Mais avec une telle gentillesse, tout était permis. Alors, il y avait l'islam, donc vous voyez, c'est, je crois, quand même quelque chose d'assez net dans l'Église. Toujours, était un point d'interrogation, ça me semble intéressant d'y penser. Si vous voyez autre chose, vous me le direz. Parce que il faut le découvrir à partir du texte. Les grandes hérésies, les grandes permissions de Dieu, puisque ce sont les permissions de Dieu. Les trompettes, c'est les anges de Dieu qui signalent ça et qui permettent aux influences néfastes, donc aux démons, à la bête de la terre et à la bête de la mer, comme nous le verrons, d'agir. C'est pas Dieu qui agit pour susciter l'islam, mais c'est une influence néfaste. Et Dieu permet. Et les trompettes signalent les permissions de Dieu. Alors nous avons entre la sixième trompette et la septième trompette, ça nous intéresse particulièrement, le grand renouveau. C'est pour ça que c'est impressionnant quand le pape parle du renouveau. Nous avons le grand renouveau de l'Église. Donc chapitre 10, je le relis, parce que c'est tellement beau. Et puis c'est important de voir ça, c'est important de comprendre ce que ça doit être. Et je vis un autre ange, vigoureux, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, avec l'arc-en-ciel sur sa tête. Et de sa face était comme le soleil. Et ses jambes comme des colonnes de feu. Vous voyez bien que cet ange vigoureux, ça ne peut être que le Christ. C'est un envoyé. L'ange, c'est l'envoyé. Il avait dans sa main un petit livre ouvert. Alors, il y avait l'agneau à le livre de vie. Ici, Jésus a le petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre pour pacifier. Il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Et lorsqu'il eut crié, les sept tonnerres firent parler leur voix. Les sept tonnerres, c'est l'esprit. C'est la nouvelle Pentecôte d'amour. Vous voyez ? C'est comme une nouvelle effusion de l'esprit. Et lorsque les sept tonnerres eurent parlé, j'étais sur le point d'écrire, et j'entendis une voix venant du ciel qui disait « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. » C'est bien dommage. Parce qu'on arrive là à la théologie du renouveau. Et si l'Esprit Saint dit ça, c'est parce qu'il veut que nous la découvrions. Et c'est intéressant de voir, il y a une théologie du renouveau. Puisqu'il y a les sept tonnerres qui donnent cela. On essaiera de comprendre comment découvrir cette théologie du renouveau. Et l'ange qui avait vu, debout, sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit pour les éternités d'éternité, qui a créé le ciel et qui s'y trouve, et la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour où se ferait entendre le septième ange, lorsqu'il viendrait à sonner de la trompette, alors s'achèverait le mystère de Dieu, comme il en a fait l'annonce à ses esclaves, les prophètes. Donc vous voyez bien, la sixième trompette, tout proche de la fin, puisque la septième trompette, c'est la fin. C'est la fin, c'est-à-dire c'est le retour du Christ dans sa gloire. C'est le commencement. C'est la libération, la grande libération, la grande théologie de la libération. Mais la théologie de la libération n'est pas la théologie des sept tonnerres. C'est intéressant. La grande théologie de la libération, c'est le retour du Christ. Et la voix que j'avais entendue du ciel parler avec moi de nouveau et disait « Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et je m'en allai vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre. Il me dit « Prends et dévore-le. Il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Et dans ma bouche, comme miel, il était doux. Mais lorsque je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Et on me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur des peuples et des nations et des langues et des rois en grand nombre. Mais il ne s'agit pas de se tourner les pouces le moment du renouveau. Il s'agit au contraire de nouveau de prophétiser avec un nouvel élan et une nouvelle force. Alors vous voyez, cette chose très étrange de ce petit livre. Pour Jean, ce petit livre c'est quoi? C'est peut-être l'évangile qu'il a dû écrire. C'est peut-être la première épître. C'est peut-être l'Apocalypse. Est-ce que les petits livres n'est pas les livres johanniques? En montrant la valeur tout à fait particulière de ces livres johanniques qui sont pour la fin. Je crois ça, personnellement. Et que Jean a dévoré le petit livre. Il l'a écrit en le dévorant avec un amour fou pour le Christ et pour nous. Il était doux comme miel à son palais. Il était amer à ses entrailles. C'est très beau de voir comment l'évangile de Jean a été écrit. Et comment nous devons le recevoir? C'est pour nous. On doit dévorer la parole de Dieu. On ne doit pas l'analyser d'une manière scientifique. On doit la dévorer, la parole de Dieu. C'est une nourriture, c'est notre pain. Donc on doit se l'assimiler. Et la parole de Dieu est toujours ce qu'il y a de plus doux au palais, doux comme le miel. Et la parole de Dieu nous unit toujours à la croix, l'amertume, aux entrailles. Donc, il nous est montré l'exigence d'une nouvelle compréhension du petit livre. Et je dis bien de Saint Jean. Si je peux le signaler, parce que On est dans l'intimité, là. La première fois que j'ai prêché à Châteauneuf, la retraite des prêtres, comme je n'avais été à aucune retraite de Châteauneuf avant, je ne savais pas comment ça se passait. Je sais bien que dans chaque maison, il y a des mœurs particulières, des habitudes particulières. Là, j'avais demandé au père Finet, comment ? Alors, le père Finet me dit, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, prêchez ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ça avait beaucoup d'importance, mais ça n'avait pas d'importance. Alors, je dis, écoutez, je suis plongé dans Saint-Jean actuellement, est-ce que vous ne croyez pas que ce serait bien ? Oh oui, allez-y, allez-y. Très bien. J'avais la permission, donc je pouvais y aller. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est ce que le père Finet a dit à la fin de la retraite. Quand il a dit à Marthe, le père Finet prêche sur l'évangile de Saint Jean. Marthe a dit, le père Finet l'a répété, Marthe a dit, enfin. Voyez, Marthe annonce le renouveau. Ça, j'en suis presque sûr. Quand l'Église le dira, ce sera mieux. Vous savez, la Pentecôte d'amour, hein, les sept tonnerres. Marthe disait Pentecôte d'amour. Le Fils du tonnerre dit les sept tonnerres. Parce qu'il sait que c'est fort. Et c'est vrai que c'est fort. L'Esprit Saint se donne avec toute la force et la violence de l'amour. Et alors le petit lit, vous voyez, est-ce que ce n'est pas cela ? L'évangile de Jean, l'Apocalypse et la première épître. Cette parole de Marthe est quand même très forte, enfin. Comme si au fond les foyers étaient pour qu'on puisse prêcher Saint Jean. Et je crois que tout le renouveau de l'Église doit être johannique. Alors ne pas entrer dans les méthodes scientifiques qui dissèquent la parole de Dieu, mais dévorer la parole de Dieu, la manger, l'assimiler comme un pain, en comprenant que c'est notre nourriture. Il me fut donné un roseau. Donc, j'essaie de comprendre, hein, entre sixième trompette et septième trompette. Et si nous sommes vraiment à cette période-là, c'est merveilleux. On nous donne une lumière d'en haut sur ce que nous devons vivre. Nous devons, à la suite de Jean, recevoir de Jésus le petit livre. Autrement dit, il y a comme un appel nouveau au plan doctrinal, au plan contemplation, au plan de la révélation. Ce que je crois profondément. Il me fut donné un roseau, semblable à un bâton, en disant « Lève-toi et mesure le sanctuaire de Dieu ». Vous savez, quand Dieu se fait architecte, c'est bien. Il s'est fait architecte pour la construction du temple. Il ne faut pas l'oublier. Dieu ne s'est jamais fait peintre, mais il s'est fait architecte. C'est pas étonnant, parce que c'est la synthèse, c'est le sommet. Lève-toi et mesure le sanctuaire de Dieu, et l'autel, et ceux qui s'y prosternent. Donc, il y a une mesure, mesurer le sanctuaire de Dieu. De nouveau, c'est une nouvelle mesure, vous voyez, le renouveau de l'Église, qui va jusque dans l'architecture de l'Église. Très étonnant. Lève-toi et mesure le sanctuaire de Dieu, et l'autel, et ceux qui s'y prosternent, et le parvis extérieur du sanctuaire. Laisse-le en dehors, et ne le mesure pas. Parce qu'il a été donné aux nations, et elles fouleront la ville sainte, pendant 42 mois. Alors traduisez ça comme vous voulez, mais je crois qu'il y a une signification extrêmement grande, c'est que de fait, il y a une restriction, il y a comme une concentration de l'Église, et on les sépare aux nations. Comme une sorte de miséricorde de Dieu. Et le parvis extérieur du sanctuaire, laisse-le en dehors et ne le mesure pas parce qu'il a été donné aux nations. Aux nations, c'est les païens. Et elles fouleront la ville sainte, pendant 42 mois. Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser. Il y a le petit livre et les deux témoins. À mes deux témoins de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Donc traduisez. Une période donnée. La période sixième trompette, septième trompette. Notre période. Ce sont les deux oliviers. Deux lampadaires dressés devant le Seigneur de la terre. Donc, les deux témoins, ce sont les deux oliviers et les deux lampadaires dressés devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un voulait leur nuire, c'est ainsi qu'il faut qu'ils soient tués. Donc, ils ont une force divine qui fait qu'on ne peut pas les atteindre. Ceux-là ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie durant les jours de leur prophétie. Ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et pouvoir de frapper la terre de toutes plaies autant de fois qu'ils le voudront. Et lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Donc on anticipe, on parlera de la bête après. Ça, c'est l'illogisme de l'Apocalypse, hein. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres, et sur la place de la grande ville qui est appelée allégoriquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Et des hommes d'entre les peuples, les tribus et langues et nations regardent leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et leurs cadavres, ils ne les laissent pas mettre dans une tombe. Et ceux qui habitent sur la terre, donc les matérialistes, hein, ceux qui habitent sur la terre, se réjouissent à cause d'eux et exultent. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, car ces deux prophètes ont torturé ceux qui habitent sur la terre. Et après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande peur tomba sur ceux qui les contemplaient. Ils entendirent venant du ciel une voix forte qui leur disait: « Montez ici !» Ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. Et à cette heure-là, il y eut une grande secousse, et le 10e de la ville tomba, et dans la secousse furent tués 7 milliers de personnes, et les autres furent saisis de peur, ils rendirent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur s'en est allé. Voici que le troisième malheur vient bientôt. C'est la septième trompette. Alors avant de regarder la septième trompette, regardons les deux témoins. Ces deux témoins, vous voyez bien que si on est un tout petit peu attentif, on découvre assez facilement Élie et Moïse. Les deux témoins du Tabor. Élie et Moïse. Alors, quels sont ces deux témoins qui, pour nous, symboliquement représentés par Élie et Moïse? Alors, une fois qu'on a ça, on peut comprendre. Les Élie, c'est toujours la Vierge. Donc, un de ces témoins, je crois qu'on peut dire, ce sont les apôtres des derniers temps. Tout entier dévoué à la Vierge. Notre pape. Ça, c'est net. Tout entier dévoué à la Vierge. Tous ceux qui sont relié à Marie, c'est vraiment Élie. De façon très particulière, le nouvel Élie. Et Moïse, la loi nouvelle, c'est le mystère de l'Eucharistie. Et donc, ce sont tous ceux qui sont reliés au mystère de l'Eucharistie d'une manière particulière. C'est assez net. Je crois que les deux témoins, c'est le renouveau de l'Église par Marie et par l'Eucharistie. Vous voyez qu'il y a trois aspects. La parole, Marie et l'Eucharistie. Il va paraître bientôt un livre sur le renouveau dans l'Église. 10 communautés. Et ce renouveau dans l'Église montre ces diverses communautés. On en arrive à la conclusion, il y a quelque chose de commun dans toutes ces communautés. La mise en lumière très nette de la parole de Dieu. Le petit livre. Le mystère de Marie et le mystère de l'Eucharistie. C'est curieux parce que c'est indépendant de ça. Hein, c'est pas moi qui ai soufflé ça. Sans y penser du tout. Sans penser du tout à ça. Je crois que c'est ça les trois notes dominantes du renouveau. Le sens nouveau de la parole de Dieu, et la parole de Dieu n'est pleinement parole de Dieu qu'au terme de la révélation, les écrits johanniques. Ça c'est sûr. La parole de Dieu n'a jamais été aussi éclatante que dans l'évangile de Saint Jean. Le mystère de Marie, je crois que c'est facile à le comprendre, surtout dans l'année mariale, et l'Eucharistie aussi. De sorte que on voit les deux témoins, les apôtres de la fin des temps, ceux qui vivent du mystère marial tel que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort en a parlé, tel que Maximilien Kolb en a parlé. C'est cette lumière nouvelle sur Marie. Il y a là quelque chose de très impressionnant. On va relire le passage avec cette lumière-là pour voir si ça, c'est bien ça. Et le mystère de l'Eucharistie aussi mis très en lumière. Alors que, de fait, toute la grande, j'allais dire la grande, le grand raz-de-marée voulait effacer Marie et voulait effacer l'Eucharistie. C'est juste l'effet inverse. Et ça, c'est le signe de Dieu. Alors voyez, je crois que c'est bien ça le renouveau. C'est le petit reste dans l'Église pour la conquête de tout l'univers. C'est vrai, c'est le petit reste, c'est pas toute l'Église, le renouveau. Je prends le renouveau, c'est pas. Je n'identifie pas. Je prends le renouveau dans le sens de notre pape. Pas le renouveau charismatique, vous voyez bien. C'est le renouveau de l'Église, quoi. Comme Marthe disait, le renouveau de l'Église, c'est la Pentecôte d'amour. C'est les sept tonnerres. Alors, c'est vrai. C'est comme une Église qui s'est pas repliée sur elle-même, non, qui accepte la pauvreté, la petitesse, la fragilité, le petit reste. Petit reste des croyants. Partout, c'est vrai, partout on le dit, la pratique a diminué. Le nombre des vocations a diminué. Mais il y a un renouveau. Un renouveau qualitatif, pas tellement quantitatif, mais qualitatif, assez étonnant. Et il est exprimé, vous voyez, de cette manière-là. Les parvis extérieurs du sanctuaire, ceux qui arrivent en retard à la messe, vous voyez, les parvis extérieurs du sanctuaire, laissent-le en dehors et ne le mesurent pas. Ceux qui sont chrétiens, vous savez, ne savent pas très bien pourquoi ils sont chrétiens. Alors quand l'Église est glorieuse, ils sont là, mais quand l'Église souffre, ils ne sont plus là. Alors ça, c'est les parvis extérieurs. Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, revêtus de sacs, la pénitence, le jeûne, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux lampadaires dressés devant le Seigneur de la terre. Les deux lampadaires, l'Eucharistie et Marie, les témoins de l'Eucharistie, les témoins de Marie. Et si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Ils auront ce pouvoir divin de l'amour, de pouvoir vraiment être source d'amour. Si quelqu'un veut les nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un voulait leur nuire, c'est ainsi qu'il faut qu'ils soient tués. Alors ceux-là ont le pouvoir de fermer le ciel volé, Élie, pour qu'ils ne tombent pas de pluie durant les jours de leur prophétie. C'est Marie qui veille, qui garde. Ils ont le pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et de frapper la terre de toutes plaies autant de fois qu'ils le veulent, qu'ils le voudront. Alors, ce qui est plus mystérieux, c'est justement cela. Et lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, donc tout proche de la septième trompette, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Les vaincra et les tuera. Donc, Dieu les rend invincibles le temps qu'il veut. Mais ils gardent leur fragilité. Les vaincra et les tuera. Et leur cadavre est sur la place de la grande ville qui est appelée allégoriquement Sodome et Égypte. Sodome, on sait très bien, c'est l'iniquité selon la chair et le sang, et l'Égypte, c'est l'efficacité à l'état pur du Pharaon, c'est la tyrannie du Pharaon. C'est bien les deux grandes tendances qui s'opposent violemment aux deux témoins. Marie, elle est l'Immaculée, Sodome, c'est la grimace de Marie. L'Eucharistie, c'est le don d'amour purement gratuite. Et la grimace, c'est l'efficacité de l'Égypte. Et comme il y a des correspondances assez étonnantes. Et donc, on les a tués là même où le Seigneur a été crucifié, hors de la ville. Et c'est le mystère de la croix qui recommence pour l'Église. L'Église terminera sur la croix, dans ses deux témoins, à la suite du Christ. Et des hommes d'entre les peuples, et tribus, et langues, et nations, regarderont leurs cadavres pendant 3 jours. Pendant 3 jours et demi. Et leurs cadavres, ils ne les laissent pas mettre dans une tombe. C'est assez extraordinaire. Ce dernier sabbat, ces cadavres qui montent, qui sont vaincus, qui sont là pour être témoins de la lutte, et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à cause d'eux, exultent, c'est leur magnificat. Ils s'enverront des présents les uns aux autres. Car ces deux prophètes ont torturé ceux qui habitent sur la terre. Et quand on se réjouit quand on a décapité Jean-Baptiste. Il y a une petite jouissance comme ça, là, on a l'impression, de tous les habitants de la terre. On s'en voyait bien, on avait raison. Ils auront raison 3 jours, en présence des cadavres. Comment comprendre ça? Je crois que les deux témoins auront une efficacité prodigieuse voulue par Dieu. Et à un moment donné, Dieu leur demandera d'entrer dans la suprême pauvreté du sépulcre. Parce que c'est le mystère du sépulcre. Et ce mystère du sépulcre montre donc bien comment le mystère de Jésus s'achève au sépulcre et le mystère de l'Église s'achève au sépulcre. Ceux qui ont connu Marthe, Robin, savent bien que Marthe, c'était le mystère du sépulcre. J'allais dire, il y avait même la liturgie du sépulcre, parce qu'elle était enfermée dans cette petite chambre noire. C'est bien le mystère du sépulcre. Et au fond, la fin de Marthe, c'est tout à fait comme ça. Marthe faisait partie de ses témoins, ça c'est sûr. Elle était peut-être parmi les témoins, celle qui l'était d'une façon très unique. Et après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds et une grande peur tomba sur ceux qui les contemplaient, donc les habitants de la terre. Ils entendirent venant du ciel une voix forte qui leur disait « Montez ici !» Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les contemplèrent. Et à cette heure-là, il y eut une grande secousse, et un dixième de la ville tomba, et dans la secousse furent tués 7 milliers de personnes. Les autres furent saisis de peur, et ils rendirent gloire au Dieu du ciel. Comme vous voyez bien, je crois que nous pouvons dire ça, qu'on est là en présence des ultimes attaques qui seront décrites ensuite. Et en face de ces multiples attaques, ce secours nouveau de Dieu, le petit livre, comme une révélation intime des écrits johanniques, et puis les deux témoins. Alors, c'est pas nécessairement des personnes individuelles, je crois que c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Vous voyez, toute une armée, l'armée de la Vierge Marie, plus terrible qu'une armée rangée en bataille. C'est beaucoup plus tous les disciples bien-aimés de Jésus auprès de l'Eucharistie, puisque c'est toujours auprès de l'Eucharistie que le disciple bien-aimé se manifeste. Les gens à la scène. Je crois que nous sommes là en présence de ce qui nous montre ce qui doit arriver bientôt. Et nous y sommes déjà, je crois. Alors la septième. Et le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel des voix fortes qui disaient « La royauté du monde a passé à notre Seigneur et à son Christ. Il règnera pour les éternités d'éternité. » Voilà, c'est l'arrivée du Christ dans sa gloire. Et les 24 vieillards qui, devant Dieu, sont assis sur leur trône, tombèrent sur leur face. Ils se prosternèrent devant Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est, celui qui était, de ce que tu as pris ta puissance, la grande, et établis ton règne. »